Donc Israël, les prophéties et l'actualité. Ce matin, nous avons vu un certain nombre de ces prophéties, et notamment les prophéties qui concernent les choses dernières et le fait que, avant de connaître la rédemption finale, Israël passerait encore par des épreuves. Et une de ces épreuves, c'est ce que l'on appelle dans la tradition juive les guerres de Gog. Et cette guerre de Gog, nous avons vu qu'elle commencerait par une guerre verbale, une campagne de propagande anti-israélienne qui se répandrait au niveau du monde entier. Et déjà, les prophètes Moïse avaient annoncé ce lynchage médiatique auquel Israël est soumis maintenant depuis des années, depuis 1967 très exactement, et qui s'amplifie de plus en plus. Je voudrais cet après-midi entrer dans un deuxième type d'accomplissement prophétique, parce que cette guerre médiatique, elle débouche sur la guerre tout court. Et là, je voudrais que nous nous posions une question essentielle. Est-ce que nous sommes à la veille de la véritable rédemption? Est-ce que nous sommes à la veille du retour de Jésus? Est-ce que nous sommes à la veille de l'avènement du royaume messianique? Poser cette question, c'est nous situer d'une manière très précise dans une certaine chronologie, et c'est constater que bien des générations avant nous ont pensé qu'elles étaient aussi la génération dernière. Et lorsque nous regardons l'histoire, nous constatons que ces gens-là se sont trompés. On peut se demander, est-ce que nous aussi, nous ne serions pas en train de faire la même erreur et prendre pour nous un certain nombre de prophéties qui s'adressent à encore un avenir beaucoup plus éloigné que celui que nous pouvons imaginer, et par conséquent, de penser que nous aussi, nous pourrions nous tromper en pensant que nous sommes la génération dernière. Alors, je voudrais ici reprendre des réflexions, des commentaires, très exactement, qui ont été effectués par des sages d'Israël. Je voudrais faire une petite mise au point à ce sujet dès le départ, car on m'a parfois reproché de faire appel justement à ces commentaires des sages d'Israël, lesquels, nous dit-on et nous rabattons les oreilles, ne croyaient pas en Jésus, donc n'avaient pas l'esprit, donc n'ont rien à nous apporter et rien à nous enseigner. Ça, c'est grosso modo ce que l'on pense dans beaucoup de milieux chrétiens. Or, comme je l'ai dit ce matin, il y a une réalité qui est incontournable, c'est que ces gens-là lisaient la Bible dans la langue originale, dans l'hébreu, tandis que nous, nous la lisons en général dans des traductions. Et pendant des siècles, des générations de rabbins se sont efforcés de décortiquer chaque mot, pour ne pas dire chaque lettre du texte biblique, pour essayer d'en faire jaillir les différentes richesses. Avait-il l'esprit ou ne l'avait-il pas? Il ne m'appartient pas d'en juger. Dieu est libre d'agir comme il l'entend. Mais même en supposant qu'il n'avait pas l'esprit, il y a une chose qui doit nous apparaître comme bien claire, c'est que l'esprit de Dieu ne nous enseignera pas l'hébreu. L'esprit de Dieu ne nous s'enseignera pas les techniques d'exégèse qui ont été mises au point par les rabbins pendant des générations, même avant la venue de Jésus, et techniques que Jésus et Paul connaissaient parfaitement et qu'on retrouve quand on étudie le Nouveau Testament. Alors, bien entendu, il n'est pas question pour moi ici d'affirmer que tout ce qu'ont écrit les sages est fiable et par conséquent mérite que l'on s'y arrête. Il faut effectivement faire un tri dans tout cet ensemble de commentaires. Mais finalement, nous avons deux points de repère importants. L'analogie de la foi, c'est-à-dire est-ce que ces commentaires sont conformes ou non avec ce qu'enseigne la Bible et pour nous, en particulier, ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Et deuxièmement, est-ce que ce qu'ils ont annoncé en essayant d'expliquer les prophéties est en train ou non de se réaliser? C'est un des critères qui nous permet de discerner la réalité d'un faux prophète ou d'un véritable prophète. Moïse a dit, si ce qu'annonce le prophète est vrai, s'accomplit, c'est donc que sa prophétie est exacte. Si elle ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. C'est tout simple. Et c'est sur ces deux critères que je me suis basé pour reprendre tous ces commentaires, qui en général ne sont pas très connus dans le christianisme, mais qui nous permettent aussi de mieux comprendre le texte biblique et les enseignements qu'il nous donne. Cette question que j'ai posée tout à l'heure, comment pouvons-nous savoir que nous sommes à la veille de la véritable rédemption? C'est quelque chose, c'est les signes de cette véritable rédemption, ce sont des choses aussi que les sages d'Israël ont essayé de comprendre et de discerner. Et il y a, j'ai ici noté, trois critères importants qui reviennent dans toutes les paroles des sages, tous les commentaires. Premièrement, les exilés reviendront des quatre extrémités de la terre. Comme je l'ai précisé ce matin, le dernier exil sera un exil qui comportera une dispersion parmi toutes les nations. Ça aussi, Jésus l'a annoncé. Donc, c'est absolument indiscutable. Deuxièmement, la terre portera ses fruits. Et dans le temps dernier, le monde entier sera inondé par les fruits d'Israël. Or, aujourd'hui, ceci aussi est une prophétie réalisée. Allez dans votre supermarché et vous trouverez des oranges d'Israël, vous trouverez des pommes de terre qui viennent d'Israël. En janvier, vous trouverez des fraises qui viennent d'Israël. Vous trouverez des fleurs, des roses qui viennent directement d'Israël à une époque où vous ne pourrez pas en trouver une seule ici parce que le temps n'est pas à de la partie. Et non seulement Israël inonde le monde entier de ses fruits agricoles, si j'ose dire, mais aussi de ses découvertes. Beaucoup ici appellent à un boycott des produits d'Israël. Il y a une organisation anti-sioniste qui propose de boycotter tous les fruits d'Israël. Alors, si vous êtes dans cette mouvance-là, eh bien, vous n'avez qu'une seule chose à faire, prendre votre téléphone portable et le mettre à la poubelle, parce qu'il contient des pièces qui viennent directement d'Israël. Parce que toute cette super technologie que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, a souvent ses origines en Israël même. Cessez de vous faire soigner, parce que la plupart des découvertes médicales de pointe qui sont aujourd'hui employées dans bien des pays ont été mises au point par Israël. Par conséquent, ici, nous voyons s'accomplir cette prophétie que déjà les sages d'Israël au Moyen-Âge avaient considérée comme étant un des signes indiscutables des temps de la fin. Dans les temps de la fin, Israël répandra ses fruits dans le monde entier. Autre et troisième point, Jérusalem sera reconstruite. Et lorsque Jérusalem sera reconstruite, alors le Messie viendra. Jérusalem, je l'ai connue il y a déjà plus de 50 ans maintenant. C'était une petite ville de province, enserrée dans une sorte de cul-de-sac qu'on appelait le corridor de Jérusalem, qui finalement avait énormément du mal à se développer par rapport à la grande cité qui était la capitale, disons, économique et culturelle d'Israël, Tel Aviv. Depuis la guerre des Six Jours, Jérusalem, a connu un essor de développement absolument considérable. Il n'y a pratiquement pas une année qui se passe sans que je retourne en Israël, et chaque fois, je trouve des transformations. Encore cette année, heureusement que nous avions avec nous quelqu'un qui avait un GPS sophistiqué, Parce que le réseau routier s'est tellement amélioré, je ne dis pas en un an, je dis en 6 mois. Des nouvelles routes ont été ouvertes et nous avions absolument besoin de nouvelles indications pour nous y retrouver. Jérusalem, depuis plus de 50 ans que je la connais, est un immense chantier qui ne cesse, je dirais, de se développer nuit et jour. Et ça aussi, c'est quelque chose que les prophètes ont annoncé. Ils ont dit, Jérusalem s'étendra, tu t'étendras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de s'accomplir au grand dam des nations qui voudraient empêcher justement le développement de Jérusalem. Mais Jérusalem est aujourd'hui une des capitales les plus dynamiques du monde et une des capitales qui se développe le plus rapidement et le plus vite. Je voudrais aussi citer les commentaires d'un des grands rabbins qui vivait en Espagne aussi au XIIIe siècle. On l'appelle le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, qui lui aussi a déclaré qu'on serait dans le temps de la fin lorsque les exilés reviendraient en force en Israël. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 11, dans ce temps-là, l'Éternel étendra une seconde fois les mains pour ramener le reste de son peuple des quatre extrémités de la terre. J'ai évoqué cela tout à l'heure, mais il est intéressant de noter que c'est quelque chose qui a été aussi rapporté par ce grand rabbin qui donc a pu anticiper ce qui serait aujourd'hui là, ce que nous pouvons constater de nos propres yeux, c'est-à-dire ce rassemblement des exilés des quatre extrémités de la terre. Maintenant, tout n'est pas positif dans les temps de la fin. Et il y a une vieille prophétie, plus exactement un commentaire des prophéties qui a été donné dans deux textes du Talmud que l'on appelle en hébreu Ikvot HaMashiach. Ça veut dire les traces des pas du Messie. On appelle ça aussi la prophétie d'Élie parce que c'est une prophétie qui est, ou plutôt c'est un commentaire qui est tiré du psaume 90, psaume attribué par la Bible à Moïse, qui nous dit ceci, car voici, à tes yeux, un jour est comme 1000 ans. Et à cause de cela, on a estimé que le Messie reviendrait dans le 7e millénaire de notre ère. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e millénaire, et par conséquent, il reviendra avant l'entrée en vigueur du 7e millénaire. Et le terme, ce commentaire nous dit ceci, je vous le lis. Comment reconnaîtront-on? C'est un commentaire aussi du psaume 89 qui nous parle du rétablissement de la dynastie de David. Dieu qui a fait une alliance éternelle avec David, alliance qui est abondamment commentée par ce long psaume qu'est le psaume 89 et qui dit qu'il fera de lui le premier des rois de la terre, que son nom subsistera de génération en génération aussi longtemps que subsisteront le soleil et la lune. Nous avons dans le Nouveau Testament une prophétie semblable qui a été donnée par l'ange Gabriel à Marie avant qu'elle ne conçoive Jésus et qui lui dit ceci, parlant de l'enfant auquel elle allait donner le jour, lui dit ceci, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à perpétuité. Il régnera sur la maison de Jacob, le trône de David, son père. C'est quoi le trône de David, son père, à votre avis? C'est le trône de Saint-Pierre à Rome? C'est le trône de la reine Élisabeth, paraît-il, que le trône des rois d'Angleterre est situé sur une pierre sur laquelle David a été couronné, de telle sorte que les rois d'Angleterre sont les successeurs du roi David, et que le trône de la monarchie britannique n'est autre que le trône de David. J'en doute. Je doute même de l'authenticité de cette fameuse pierre, pierre du couronnement, comme on l'appelle. Le trône de David, est-ce que c'est le trône du roi d'Espagne qui parmi les nombreux titres qu'il s'attribue a aussi celui de roi de Jérusalem, roi de pacotille bien sûr. Le seul qui mérite et qui peut revendiquer le trône de David, c'est le descendant de David, Jésus, le Messie d'Israël. Question : quand Jésus s'est-il assis sur le trône de David, son père ? Jamais. Au contraire, les chefs de son peuple ont poussé la foule à dire : nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Résultat : Jésus a créé, on pourrait se dire, une sorte de gouvernement en exil. Il est remonté vers son Père et il s'est assis à la droite de la majesté divine, d'où il règne. Nous sommes bien d'accord. Mais ce règne n'est pas encore complet, n'est pas parfait. Et Paul le rappelle dans la première aux Corinthiens, quand il nous dit que le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. Pour le moment, la mort n'est pas encore mise sous ses pieds. Ce qui fait que le règne du Seigneur n'est pas total, il n'est pas complet. Or, il faudra bien que la prophétie de l'ange Gabriel, qui n'est pas le moindre des anges, loin s'en faut, c'est un de ceux qui sont les plus élevés dans la hiérarchie angélique, il faudra bien que cette prophétie s'accomplisse et qu'un jour, Jésus s'asseye sur le trône de David, son père. Quand cela se fera-t-il ? Justement, ici, cette prophétie répond. Quand tu verras les individus immoraux, les nations se dresser les unes contre les autres, alors tu sauras que le Fils de David arrive. Mais auparavant, il faudra que le monde entier soit rempli par ce qu'on appelle en hébreu la minoute. Minoute, c'est un sigle, Maminé Yeshua Anotri, par les croyants en Jésus le Nazaréen. Et voyez-vous, c'est très intéressant, parce que ces rabbins qui ne croyaient pas en Jésus savaient que le Messie, celui qu'ils attendent, ne pourra venir que lorsque le monde entier aura été atteint par le christianisme. C'est extraordinaire. Or, Jésus nous dit cela dans deux textes. Le premier, dans Matthieu 24, quand il parle de son retour, il nous dit « Il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier, alors seulement viendra la fin. » Et le jour de l'ascension, dans les dernières recommandations qu'il donne à ses disciples, ce que l'on peut appeler, ce que mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem appelait le testament spirituel de Jésus, c'est-à-dire les dernières paroles qu'il a prononcées sur la terre, c'était « aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Et les disciples lui posent la question, quand il dit « Mais Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et l'interprétation traditionnelle de ce texte est le suivant. Mais Jésus les détrompe. On dit « Quoi ? Rétablir le royaume d'Israël ? Un royaume politique ? Mais mes bons amis, vous n'y êtes pas. » Vous êtes encore un but des juives, que moi, Jésus, je vais rétablir un royaume terrestre, politique. Mais tout chrétien sait parfaitement bien que je suis venu non pas pour établir un royaume politique, mais un royaume spirituel dans les cœurs. Et ça, c'est l'interprétation qu'on trouve dans la plupart des églises. Seulement, une saine exégèse de ce texte, et moi, c'est ma passion, l'exégèse, ça veut dire essayer de comprendre ce que le texte veut dire vraiment. Or, quand nous lisons ce texte, nous constatons que la question des disciples ne porte pas sur le fait de savoir si oui ou non Jésus va rétablir le royaume d'Israël, mais le quand de cet événement. Que Jésus va rétablir le royaume d'Israël, mais c'est une évidence pour les apôtres et c'est une évidence pour Jésus. Et comme disait mon professeur, si Jésus n'avait pas été d'accord, il l'aurait précisé. Mais la question, c'est de savoir quand. Seigneur, tu viens de nous dire, à nous les apôtres, que dans quelques jours, nous serions remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un signe eschatologique, c'est un signe de la fin. Donc, est-ce en ce temps-là, dans 10 jours, quand nous serons remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, est-ce dans 10 jours que tu vas établir le royaume d'Israël? Est-ce dans ces 10 jours que tu vas t'asseoir sur le trône de David ton père? Parce que finalement, cette prophétie, elle rejoint celle de l'ange Gabriel, auquel nous avons parlé, de laquelle nous avons parlé il y a un instant. Je dis, non, non, détrompez-vous. Ça ne va pas se faire aussi vite que ce que vous pensez. Parce que finalement, cette effusion du Saint-Esprit dont vous allez être l'objet dans quelques jours, comme je viens de vous le dire, eh bien, c'est une puissance qui vous sera donnée pour que vous portiez ma parole jusqu'aux extrémités de la terre. Sous-entendu, ce n'est que lorsque vous aurez accompli cette mission, que lorsque l'Évangile aura atteint les extrémités de la terre, que je rétablirai le royaume d'Israël. Aujourd'hui, l'Évangile a atteint les extrémités de la terre. Il n'y a plus un pays, il n'y a plus un seul continent, il n'y a plus une île de parmi les plus lointaines où l'Évangile n'ait pas été proclamé. Et aujourd'hui, avec la mondialisation des moyens de communication, eh bien, tout individu, y compris dans les déserts les plus reculés, eh bien, peut entendre l'Évangile. Donc ici, la prophétie s'est accomplie. Et c'est justement pour cette raison que, actuellement, eh bien, l'État d'Israël est en train d'être rétabli. Est-ce en ce temps-là? Quand? C'est-à-dire quand? Quand le monde entier aura été atteint par la minute, ont dit les rabbins, et Jésus a dit, quand le monde entier aura été atteint par l'Évangile. Dans ce temps-là, donc je reprends ici ma prophétie d'Élie, juges et autorités auront disparu d'Israël. La corruption s'accroîtra. Les sages seront persécutés. La sagesse disparaîtra. On ne croira plus au péché. La face de cette génération sera comme celle d'un chien. Alors nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner, si ce n'est vers notre Père qui est dans les cieux. Le Messie viendra uniquement dans une génération qui sera entièrement corrompue. Retrouvez ça aussi dans la bouche de l'apôtre Paul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et le Rambam, dont je parlais tout à l'heure, non, c'est pas le même, pardon, c'est cette fois-ci Rabbi Moshe ben Baimon, c'est, il y a le Rambam et le Ramban, il ne faut pas les confondre. Là, c'est le Rambam. Il a dit, quand les fils d'Israël reviendront dans leur pays, ils auront oublié la Torah. Et lorsque nous regardons aujourd'hui ce qui se passe en Israël, nous sommes à fond aussi dans cette crise. Je voudrais toujours citer le Rambam, c'est un autre rabbin, il s'appelle le Rav Kook, qui est un rabbin beaucoup plus contemporain, et qui rejoint ce que disait le Rambam, qui dit ceci. Quand viendra le temps de la rédemption, nous saurons que nous sommes dans le processus de la rédemption, parce que de nombreux juifs abandonneront la Torah. Alors, la nation d'Israël connaîtra un pénible déclin spirituel. L'angoisse et le déclin seront tels qu'on ne se rendra même plus compte que la rédemption arrive, parce que sa venue sera entièrement différente de ce que l'on pensait. Il y aura, à cette époque-là, une situation catastrophique au niveau du gouvernement. Toute ressemblance avec des événements actuels ne serait, vous l'avez compris, que pure coïncidence. Le gouvernement d'Israël connaîtra un état catastrophique. Eh bien, nous sommes exactement à l'heure où je vous parle dans cette situation-là. Tout à l'heure, il a été évoqué cette crise politique sans précédent en Israël. Je dis sans précédent, jamais on a vu une situation de ce type. Une situation où finalement aucun gouvernement digne de ce nom ne peut surgir. Et cela est le résultat d'une loi électorale sur la base de laquelle Israël a vécu depuis 70 ans, c'est-à-dire plus de 70 ans depuis sa fondation, et qui est ce mode de scrutin complètement aberrant de la proportionnelle intégrale. Ça veut dire que quand vous votez en Israël, vous ne votez pas pour un député, vous votez pour une liste, vous votez pour un parti. Si bien que le député que vous élisez n'a pas de responsabilité vis-à-vis de vous. Vous ne pouvez pas interpeller ce député comme on peut le faire en France. Si vous avez à vous plaindre de telle et telle chose, vous pouvez aller trouver votre député, il est là pour ça. En Israël, c'est impossible. Parce que finalement, les députés ne sont responsables que devant le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une cassure entre le peuple et son gouvernement. D'autre part, cet émiettement de la proportionnelle fait qu'aucun parti, depuis la fondation de l'État d'Israël, ne peut avoir une majorité à lui tout seul. Il doit obligatoirement créer des coalitions avec des partis qui acceptent de soutenir sa majorité. Ce qui fait que les petits partis, qui sont souvent les arbitres de cette situation, ont une influence énorme par rapport au poids politique qu'ils représentent. Et l'on sait que le petit parti de Avigdor Lieberman est celui justement qui a précipité cette crise avec 5 députés en avril dernier. Il a réussi à mettre en échec tout le gouvernement d'Israël et faire en sorte que pour la première fois dans son histoire, la Knesset soit obligée de s'autodissoudre. Et les élections qui viennent d'avoir lieu ont reconstruit le même type de schéma, la même structure, et à nouveau, ce parti d'Avigdor Lieberman est l'arbitre de la situation, alors qu'il ne possède que 8 sièges à la Knesset. Et en même temps, non seulement il y a ici ce blocage des institutions qui est dû à ce système d'élection totalement aberrant, mais il y a aussi le fait que c'est un système qui favorise la corruption. Dans ce sens que pour être en tête de liste, donc avoir la possibilité d'être élu, parce qu'on prend chaque liste en fonction des proportions, des pourcentages qu'elle a eu aux élections, et ce sont les premiers de la liste qui ont évidemment les sièges qui sont attribués à ce parti-là. Si bien que pour être en tête de liste, eh bien, il y a toutes sortes de pots de vin, il y a toutes sortes de magouilles plus ou moins louches qui ont lieu. Et on assiste à cette situation qui est décrite dans ces prophéties que j'ai, dans ces commentaires prophétiques que j'évoquais tout à l'heure, un gouvernement qui est totalement corrompu. Le gouvernement d'Israël, eh bien, suscite la corruption. Or, il est certain que cette crise aurait dû, devrait logiquement, ouvrir les yeux, et du peuple israélien et de la classe politique qui est totalement coupée du reste du peuple. Et montrer qu'il faut absolument réviser le système électoral israélien. C'est la conclusion la plus cohérente, la plus logique à la crise dans laquelle nous sommes plongés. Or, à part quelques rares voix qui s'élèvent en Israël et qui se sont élevées déjà depuis longtemps contre ce système aberrant, eh bien, pratiquement personne ne reprend la balle au bond. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intérêts financiers, politiques ou autres, justement, derrière ce système actuel. Et le slogan qu'on entend en Israël dans ces temps est celui-ci: la classe politique est faible, mais le peuple est fort. Et ça, évidemment, c'est vrai, c'est aussi quelque chose qui est encourageant, malgré cette situation d'une classe politique qui a besoin d'une réforme extrêmement profonde, le peuple, lui, reste sain, sain, et donc, on peut espérer que les choses vont changer à ce niveau-là. Et nos sources, justement, qui parlent de ces commentaires que j'évoquais tout à l'heure, nous disent que c'est dans cette situation-là que viendra la troisième rédemption, qui sera la dernière. Et l'on fait allusion aussi à une prophétie qu'on trouve dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, lorsque Daniel demande à l'ange qui lui parle: Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? Et l'ange lui répond: Cela arrivera quand la force du peuple d'Israël sera entièrement brisée. Or, il faut savoir que la situation du peuple d'Israël actuellement est extrêmement critique. Lorsque les élections d'avril dernier ont eu lieu, Israël était maintenant depuis plusieurs années en guerre contre le Hamas, et notamment ce Hamas qui opère depuis la bande de Gaza. Hamas, qui est une émanation de ce qu'on appelle les frères musulmans, c'est-à-dire une secte rigoriste et extrémiste de l'islam intégriste, qui avait réussi à, en son temps, au moment de ce qu'on appelait les fameux printemps arabes, à évincer l'ancien président Moubarak et de le remplacer par quelqu'un qui était issu de leur propre confrérie des frères musulmans, qui lui-même a été renversé par le général Sisi, qui est le président de l'Égypte à l'heure actuelle, et qui fait une guerre sans merci aux frères musulmans. Mais les frères musulmans, installés essentiellement dans la bande de Gaza, sont soutenus par l'Iran, même si ils sont sunnites et les Iraniens sont chiites. Ils sont financés par, par l'Iran. Ils sont armés par l'Iran de missiles de plus en plus performants. Et pour toutes sortes de raisons, Israël a entrepris des opérations à Gaza, mais n'est jamais allé au bout de la démarche, c'est-à-dire à imposer au Hamas une victoire indiscutable d'Israël. Et donc, il y a une guerre larvée, une guerre qui existe depuis des années et qui incommode essentiellement les habitants du sud du pays. J'en sais quelque chose d'une manière très précise parce que j'ai un petit-fils qui va à l'école à quelques distances de la bande de Gaza et qui a été, notamment cette année, obligé d'interrompre souvent, mis en vacances forcées, parce que la situation dans cette région était tellement précaire, tellement difficile, que la tenue des classes était impossible. La vie normale était impossible. Et cette guerre qui provoque, notamment au niveau des enfants, des traumatismes incroyables, parce que au moment où l'alerte est déclenchée, il n'y a que quelques secondes pour gagner les abris. Et beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, eh bien, souffrent de traumatismes terribles, en ayant entendu des bombes qui explosaient à quelques distances du lieu où ils se trouvaient, etc. Et d'ailleurs, une de nos cibles dans l'aide qu'avec notre revue Keren nous apportons au peuple d'Israël, c'est de venir justement en aide aux enfants qui subissent ces traumatismes et en particulier de financer la construction d'abris qui permettent à ces enfants de se réfugier en cas de problème. Donc, c'était la situation en avril dernier lorsqu'ont eu lieu les élections. Mais depuis avril dernier, la situation s'est détériorée énormément, cette fois-ci dans les frontières nord. Frontières nord, où depuis la guerre mitigée qui a eu lieu en 2006, contre cette fois-ci des milices chiites dépendant directement de l'Iran et qu'on appelle le Hezbollah. Hezbollah, c'est deux mots arabes. Chis, ça veut dire le parti d'Allah, donc le parti de Dieu. Ils se qualifient du parti de Dieu. Ils ont des dizaines de milliers de missiles qui sont donc enterrés à la frontière nord d'Israël, capables d'atteindre maintenant l'ensemble du pays d'Israël. Il n'y a plus un seul endroit qui soit à l'abri de ces missiles. En 2006, Israël, le nord du pays, a subi une pluie de missiles venus de cette région-là, ce qui a provoqué justement la riposte d'Israël et cette guerre de 2006, où seulement c'était limité au nord d'Israël. Aujourd'hui, ce ne serait plus quelques milliers de missiles comme ce fut le cas en 2006, mais ce serait des dizaines de milliers de missiles qui seraient donc lancés sur Israël et qui n'épargneraient aucun coin du pays, de telle sorte que depuis 2006, Israël, par exemple, a créé des hôpitaux souterrains pour soigner les blessés civils et militaires qui seraient le résultat d'un pareil embrasement à la frontière nord. Cette frontière nord est aussi caractérisée par le fait qu'on y crée des tunnels pour essayer de permettre à des milices qui ont un niveau militaire extrêmement élevé. Ils ont été formés notamment dans ces fameuses guerres qui ont eu lieu en Syrie contre les partisans de Bachar el-Assad, et qui envisage de s'emparer de la Galilée en cas de conflit avec le nord du pays. Notons aussi le fait que pour éviter les ripostes israéliennes, les gens du Hezbollah ont enterré ces missiles sous des maisons civiles, sous des écoles, des hôpitaux, de telle manière que les missiles soient employés, plutôt les civils soient employés comme boucliers humains pour empêcher Israël de bombarder ces endroits, parce qu'on sait qu'Israël est un peuple qui respecte justement la vie humaine, et notamment les civils, les femmes et les enfants. Ce n'est pas nouveau, ça se produit à Gaza de la même manière. Mais là, donc, ils ont systématiquement placé ces réserves de missiles dans des endroits où, pour les atteindre, Israël sera obligé d'atteindre des civils. Et si l'opération de 2006 a plus ou moins échoué, c'est dû au fait que, précisément, les Israéliens n'ont pas osé bombarder des civils. Le gouvernement israélien a annoncé et a averti le Hezbollah qu'en cas de nouvelle attaque contre Israël, Israël ne ferait aucune, ne prendrait absolument pas en compte le fait qu'il y ait des civils et bombarderait cette fois-ci les civils. Évidemment, on est bien conscient en Israël qu'une telle opération provoquerait des dommages diplomatiques absolument considérables et que Israël apparaîtrait comme on veut le faire apparaître, comme celui qui tue femmes et enfants, etc., les malheureux Arabes. Mais voilà, si un conflit majeur éclate, Israël n'aura d'autre solution pour préserver sa propre population que d'agir de cette manière-là. Et un spécialiste me disait, quand j'étais en Israël là, il y a quelques semaines encore, que l'aviation israélienne a les moyens d'éliminer en deux demi-journées l'ensemble de ces missiles qui sont pointés sur Israël, mais au prix, évidemment, de très nombreuses pertes civiles au sein de la population libanaise. Ça, c'est le dilemme auquel Israël soit confronté. Et je voudrais citer à ce niveau une parole de Golda Meir qui disait une phrase très très belle, qui disait ceci: il y a une chose que nous ne pardonnerons jamais aux Arabes, c'est de nous avoir obligés d'apprendre à nos enfants de tuer les leurs. Et voyez-vous, aujourd'hui, Israël se trouve dans cette situation terrible d'être obligé donc d'intervenir, comme nous le disons là. Entend bien entendu que pendant ces deux demi-journées nécessaires à l'aviation israélienne pour éliminer la menace qui est au nord, eh bien, il y aurait aussi, du côté israélien, des pertes civiles extrêmement élevées. Ce n'est pas quelque chose qui sera à sens unique, malheureusement. Et si, comme le disait tout à l'heure notre frère, le Seigneur a gardé son peuple et a permis que pendant cette guerre du Sud que j'évoquais tout à l'heure, il n'y ait eu qu'un seul mort, il est à craindre que si un nouveau conflit éclate, il y en ait beaucoup d'autres. Et notamment, il y a eu un exercice qui a été réalisé par les supplétifs de l'Iran il y a quelques mois de cela, c'était en novembre dernier, où des missiles ont été tirés en salve et ils ont réussi à saturer le système de défense d'hommes de fer d'Israël. Et si beaucoup de missiles ont été interceptés, beaucoup ont réussi à passer aussi. Et c'était un exercice qui a été effectué par les supplétifs de l'Iran pour calculer ce qui se passerait en cas justement de conflit généralisé avec Israël, où l'on est sûr maintenant qu'une partie des missiles passerait. Donc, voyez-vous, Israël se trouve dans une situation extrêmement délicate et à ce moment où, justement, les tensions sur la frontière nord augmentent, eh bien, le gouvernement d'Israël est quasiment inexistant et dans l'impasse la plus totale. Donc, ici, nous sommes dans une crise majeure qui, encore une fois, est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'histoire d'Israël depuis la création de l'État. Mais voyez-vous, ce qu'ont dit aussi les sages, et ça c'est très intéressant, je reviens maintenant ici aux prophéties, c'est que lorsque le processus de rédemption se sera mis en route, il ne s'arrêtera plus. Plus rien ne pourra l'arrêter, plus rien ne pourra le bloquer. Et là, il y a un commentaire qui est un commentaire du psaume 126, qui nous dit ceci. Alors je vais le dire en hébreu, je traduirai ensuite. Shuv Adonai Tshivatenu Keafikim Banekev. Alors, ramène Adonai, Seigneur, nos captifs. Alors, Keafikim. Alors là, c'est très amusant. Parce que la plupart de nos versions traduisent comme des ruisseaux dans le désert, ou dans le Negev. Vous savez, ces jolis petits ruisseaux qu'on a dans nos pays, là, les ondes chantantes, l'eau qui gazouille, qui murmure, voilà les petits torrents, les petits ruisseaux qu'il y a dans le désert. Et mes enfants, mes petits-enfants plus exactement, qui commencent à lire la Bible en hébreu, eh bien, quand ils lisent ce psaume et qu'ils lisent les traductions en français, ça les fait rire. Des ruisseaux dans le Négev. En fait, il n'est pas question de ruisseaux ici. Afik, c'est un mot qui est pratiquement intraduisible en français et qui est un torrent à sec, comme il y en a beaucoup dans le désert. Et si vous vous promenez dans le Négev en été, eh bien, vous voyez, alors qu'il fait 45 degrés à l'ombre, que vous tirez une langue longue comme ça, vous avez un panneau qui vous annonce quand vous descendez dans une petite déclivité, attention aux inondations. Alors vous dites, mais ça va pas, il suffit de nous, des inondations. Tout est sec, pas. Mais quand vient l'hiver, eh bien, c'est autre chose. Et vous pouvez avoir de ces crues soudaines, de ces torrents, qui arrive alors que le ciel est tout bleu. Vous n'avez pas un nuage, mais vous avez un orage qui éclate à 4 km plus haut. Vous n'en entendez rien, vous n'en voyez rien. Vous entendez seulement un grondement. Et quand vous entendez le grondement, c'est trop tard. Quelques secondes après, quelques minutes après, le torrent est sur vous. C'est un torrent qui s'est formé en l'espace de quelques minutes, et qui a une impétuosité absolument incroyable, qui charrie non seulement de l'eau, mais de la boue et tous les obstacles qu'il peut trouver sur son passage. Des rochers entiers sont balayés comme des futus de paille, des troncs d'arbres, etc. Et tout ça déferle avec une impétuosité. Et si vous êtes sur le trajet de ce torrent, malheur à vous. Vous aussi, vous êtes emporté comme un futus de paille. Il y a un an de cela, nous étions en Israël, ma femme et moi, et nous étions à une époque où, en principe, il n'y aurait plus dû avoir de ce qu'on appelle en hébreu des chitfonot, c'est-à-dire de ces orages du désert. Et il y en a eu un. Et une école de jeunes filles qui était en excursion dans un de ces wadis a été emportée par ce torrent. 10 jeunes filles ont été noyées. C'était une catastrophe nationale. De ce dont il est question dans le psaume 126, ce ne sont pas de nos gentils petits torrents d'Europe, mais ce sont justement ces torrents impétueux. Shuv Adonai, ramène Seigneur nos captifs, comme des torrents dans le désert. Il faut avoir vu des torrents dans le désert pour se rendre compte de l'image. Et ça, nous voyons justement que nos traducteurs ne connaissaient pas la Bible, ne connaissaient pas le pays de la Bible, en tout cas la Bible, oui, mais pas le pays de la Bible. Et on peut essayer d'arrêter ces torrents. Et lorsque les premiers pionniers israéliens sont venus dans le désert, ils ont essayé de construire des barrages sur les lits de ces torrents pour essayer de récupérer l'eau pour l'irrigation. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont essayé de reconstruire ces digues à plusieurs fois. Elles étaient emportées à chaque tempête. Donc il a fallu changer complètement de fusil d'épaule. Et voyez-vous dire, ramène nos captifs comme des torrents dans le désert. Ça veut dire, quand le processus du retour sera engagé, rien ne pourra l'arrêter. On pourra mettre des digues, on pourra construire les obstacles les plus invraisemblables pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Ça sera inutile. Ces obstacles seront emportés comme les torrents dans le désert emportent tous les obstacles qu'on essaie de mettre sur leur route. Et les situations de gens comme justement les Iraniens qui veulent essayer de s'opposer au plan de Dieu, c'est eux qui seront balayés par ces torrents du désert. Et voici ce que dit une traduction arabienne de la Bible, un commentaire, s'appelle le Targum Yerushalmi, qui nous dit ceci. « Voici comment s'effectuera la rédemption d'Israël. Elle commencera d'abord petit, exactement comme les torrents dont il est question. Et plus elle progressera, et plus le processus s'accélérera. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 61, « Je hâterai ces choses en leur temps. » Là, quand la rédemption finale sera commencée, elle ne s'interrompra plus. Elle s'accélérera au fur et à mesure que les temps passeront. Et en cela, elle sera différente de la première rédemption. Il est intéressant de noter que c'est quelque chose auquel nous assistons aujourd'hui. Maintenant, les sages aussi d'Israël ont annoncé, nous l'avons vu tout à l'heure, une chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre et qui les choque. Je parlais avec plusieurs jeunes ce matin aussi qui ne comprenaient pas cela. Comment se fait-il que le peuple d'Israël, s'il est véritablement le peuple de Dieu, possède tout l'état des nations? On y trouve des prostituées, des homosexuels, des voleurs, des schnappants de toute espèce, et Israël n'est pas meilleur que les autres peuples. C'est vrai. Et même, il contient une grande proportion de gens qui ont rejeté toute foi en Dieu. C'est vrai aussi. Or, ça aussi, c'est quelque chose qui était annoncé. On n'a pas à s'en étonner. Et le Ramban a dit, quand viendra le temps de la rédemption, une grande quantité de Juifs rejetteront la religion pour laquelle leurs pères se sont battus, mais ils voudront rester Juifs. Et c'est cela auquel nous assistons aujourd'hui. Quant à la rédemption, elle arrivera par des guerres. Les guerres ne feront que accélérer la venue de la rédemption. Alors le pays refleurira, on l'a vu tout à l'heure, les exilés seront rassemblés, ça on l'a vu aussi. Mais il y a une chose très intéressante aussi qui est dite là. Jusqu'à la venue du Messie, nos ennemis domineront plus ou moins sur nous, comme ce fut le cas au début de l'époque du deuxième temple, à l'époque d'Ezra et de Néhémie. Et il en sera de même jusqu'à la rédemption, jusqu'à la venue du Messie. Et ce sera justement dans ce processus-là que le temps du Messie viendra. Aussi, nous dit ce commentaire, la rédemption commencera avant la venue même du Messie. Elle commencera quand ces guerres éclateront. Et quand ces guerres éclateront, il faudra considérer que le Messie est à la porte. Et ce faisant, nous avons une parole de Jésus qui nous dit la même chose quand il parle de son retour. Il nous dit que dans ce temps-là, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux elles-mêmes seront ébranlées. Mais vous, mes disciples, dit Jésus, quand vous verrez ces choses commencer d'arriver, réjouissez-vous et redressez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Voyez-vous, on trouve dans les sources juives quelque chose qui va aussi dans ce sens-là. Donc, nous sommes déjà dans le temps de la rédemption. Et c'est le grand baromètre, ce sera le rassemblement des exilés. Et le texte nous dit, il y aura deux phases dans le rassemblement des exilés. La première phase se fera de façon naturelle. Et il n'y aura pas de miracle spectaculaire. Quant à la deuxième phase, ce sera l'œuvre du Messie. Au début, la rédemption ne dépendra pas de la repentance du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël reviendra dans son pays comme un peuple de pécheurs. Mais ce sera le point de départ de la rédemption totale. La rédemption finale, elle ne se fera qu'au temps du Messie par la repentance nationale du peuple d'Israël qui reviendra à son Dieu. Et ça, Paul nous le dit aussi. Que donc, quand les temps seront accomplis, le voile qui est sur le visage du peuple d'Israël sera ôté, et alors tout Israël sera sauvé. Si vous trouvez ça aussi dans le livre de Zacharie, où il nous est dit que le livre de Zacharie est très intéressant, parce que nous trouvons ici, dans les derniers chapitres du livre de Zacharie, une idée que au moment de la venue du Messie, le peuple d'Israël sera divisé. Et non seulement il sera divisé, mais pratiquement, et certains commentateurs vont jusqu'à oser dire qu'il y aura une espèce de guerre civile en Israël au moment de la venue des nations contre Israël, de la venue du Messie. Et depuis, effectivement, quelque temps maintenant, et nous le voyons avec ces dernières élections, il y a deux grands groupes qui s'opposent en Israël, la droite et la gauche. Et une gauche qui est essentiellement antisioniste contre Dieu, Lieberman en est le plus pur représentant, et qui ne rêve que d'une chose, faire d'Israël un État laïque libéral, comme le dit Lieberman aujourd'hui. Libéral, ça veut dire justement séparé de tout ce qui appartient aux choses de Dieu, pour justement devenir un pays gauchiste. En face de cela, nous avons donc un certain nombre de gens qui veulent revenir maintenant à la Torah d'Israël. Et nous avons un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de la tchouva, c'est-à-dire de la repentance, où beaucoup de juifs qui étaient loin des choses religieuses retournent vers Dieu. Et en même temps, ont cette vision du retour d'Israël dans son pays, y compris justement dans ce qu'on appelle les fameux territoires disputés, c'est-à-dire la Judée-Samarie. Ce sont des gens qui sont diabolisés par nos médias comme étant d'abominables colons qui volent la terre des Palestiniens. Alors, c'est beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que la Judée-Samarie, si vous la visitez, c'est rare qu'on le fasse les touristes parce que ça peut être parfois un peu dangereux. Mais si vous visitez la Judée-Samarie, vous faites des kilomètres et des kilomètres sans trouver âme qui vive. Et c'est justement dans ces régions qui sont totalement dépourvues d'habitants que les fameux colons, comme on les appelle, s'installent. Et ces terres qui n'ont appartenu à personne ont été en fait nationalisées par le gouvernement jordanien du temps où cette région appartenait à ce qu'on appelle la Cisjordanie, c'est-à-dire faisait partie de l'émirat de Transjordanie. Et aujourd'hui, juridiquement, ces terres n'appartiennent plus à personne puisque, justement, le gouvernement jordanien n'est plus là pour en revendiquer la possession. Si bien que c'est sur ces terres-là que les abominables colons s'installent. Mais ils le font aussi au nom de cette vision de faire refleurir le désert. Et quand j'étais là-bas il y a plusieurs années, on m'a demandé de signer un papier disant que j'ai pu voir de mes yeux la réalisation de la prophétie de Jérémie qui dit « Tu planteras encore des vignes dans les montagnes de Samarie, vierge d'Israël, et tu en boiras le fruit. » Et savez-vous que aujourd'hui ces montagnes de Samarie, elles produisent des vins qui rivalisent avec vos vins de Bordeaux et qui raflent des prix internationaux. Vous savez pourquoi? Parce que vos vins de Bordeaux, ils viennent de là. Parce que les vins de Bordeaux, ils ont été importés par des Romains qui occupaient la Judée et la Samarie du temps du Nouveau Testament et qui ont tellement apprécié le vin d'Israël qu'ils ont ramené des plants en Gaule et en Italie, et les vins de Bordeaux et les vins d'Italie sont en réalité des vins d'Israël. Et quand on a ramené les plants là-bas, dans leur pays d'origine, eh bien forcément, ils se sont mis à refleurir comme la prophétie de Jérémie l'avait annoncé. Voyez-vous, ici nous sommes effectivement dans ces terres messianiques, même si il y a encore des difficultés par lesquelles nous devons passer. Je voudrais maintenant aussi terminer par deux autres prophéties. Voyons où est-ce que je les ai mises, parce que j'ai un peu dispersé tout ça. Attendez, voir où est-ce que j'ai mis ça. Je les ai là, peut-être. Ah ben voilà, si, voilà. J'ai parlé des dômes ce matin, et je voudrais citer deux autres, un commentaire d'un certain Yaakov Ben Asher qu'il a donné en 1289. Et voici ce qu'il est dit. Au temps de la fin, les fils d'Ishmaël, les Arabes, domineront la terre sainte quand elle sera vide. Cela durera longtemps, mais ce sera pour un temps limité. Alors ils s'opposeront aux fils d'Israël jusque prennent fin les temps des droits d'Ishmaël. Alors ils tenteront de soulever toutes les nations pour qu'elles montent contre Jérusalem, parce que les fils d'Israël se seront constitués en royaume. Tous les peuples s'assembleront, ils feront entre eux des traités de paix, ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, mais ce sera le début de la rédemption. Et voyez-vous, nous vivons exactement cela. Donc, si vous voulez, quelqu'un me disait que une personne qui l'avait invité n'avait pas voulu assister à ce rassemblement parce que ça lui faisait peur. Mais voyez-vous, il n'y a pas qu'à avoir peur. Il y a ici des paroles d'espérance. Et un autre texte aussi qu'on trouve qui est dans un commentaire aussi des prophéties de Daniel, nous dit ceci. L'année où viendra le roi Messie. Alors l'année, ça veut dire le temps, ce n'est pas une année précise. Le temps où viendra le roi Messie, le roi des Perses, l'Iran, se dressera contre le roi des Arabes. Tiens, tiens. Le roi de Perse bouleversera le monde entier. Tiens, tiens, on n'a plus de pétrole aujourd'hui à cause des missiles qui se sont abattus sur le roi d'Arabie là-bas. Le roi des Arabes demandera l'aide des nations qui ne sauront que faire et seront dans le tourment. Quant à Israël, il sera dans le deuil. Alors le Saint leur dira, le Saint c'est le Seigneur bien sûr, Mes fils, ne soyez pas en souci. Tout ce que j'ai fait, c'est à cause de vous que je l'ai fait. Le temps de votre rédemption est arrivé. Un dernier texte qui, cette fois-ci, n'est pas le résultat des commentateurs juifs, mais d'un commentateur chrétien du 5e siècle, qui s'appelait Nilus. C'est un texte que j'ai trouvé par le plus grand des hasards, alors que je fouillais dans la bibliothèque du grand séminaire de Vannes pour chercher des textes des pères de l'Église, et je suis tombé sur cette prophétie qui m'a bouleversé. Je l'ai recopiée, et je vous en donne ici la lecture. Elle a pour auteur donc ce fameux Nilus, qui vivait en 430 après Jésus-Christ. Donc voyez-vous, c'est pas hier, hein. C'était un disciple de Jean Chrysostome qui était évêque de Constantinople. Et lui-même, ce Nilus, était huissier au tribunal de Constantinople. C'était un théologien et un bibliste, ce n'est pas un clerc. Il était marié, il avait deux fils. Et il était souvent consulté par des gens de toutes conditions sur différents sujets. Et il a écrit donc sur notre temps, le temps de la fin, voici sa prophétie. Les gens de cet âge, c'est-à-dire l'âge dernier, seront méconnaissables. Lorsque le temps de l'Antichrist, de la venue de l'Antichrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par des passions charnelles. L'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra alors méconnaissable. Les gens changeront d'apparence. Il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans la manière de s'habiller et dans la mode de leurs cheveux. Les hommes seront cruels comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antichrist. On ne respectera plus les parents ni les aînés. Les pasteurs chrétiens, évêques et prêtres deviendront des hommes vains, totalement incapables de discerner leur droite de leur gauche, et l'amour disparaîtra. En ces temps-là, les traditions des chrétiens et de l'Église changeront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie. La dissipation régnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions. Malheur à ceux qui empileront des trésors, car ces trésors seront pourris. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle de la société. Dans ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands criminels et d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit, ils n'auront même plus de remords. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu. Malheureux chrétiens qui vivront sur la terre dans ce temps-là, ils perdront complètement la foi car il n'y aura plus personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ceux qui s'éloigneront du monde pour aller dans de saints refuges ne rencontreront parfois qu'obstacles et contraintes. Tout cela résultera du fait que l'Antichrist veut être le Seigneur de toutes choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des signes et des miracles invraisemblables. Il donnera ainsi à un homme une sagesse dépravée pour découvrir une manière de mener une conversation avec un autre homme à l'extrémité de la terre. Toute allusion à des événements actuels serait pure coïncidence. En ce temps-là aussi, écoutez bien, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux. Ils descendront au sein de l'océan comme des poissons. Et quand ils en seront là, ces malheureux passeront leur vie dans le confort, sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, l'impie, il remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les hommes dans la perte de la foi, même dans l'existence de Dieu et même d'un Dieu en trois personnes. Mais ce Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine. Il raccourcira ses jours pour l'amour d'un petit nombre de ceux qui doivent être sauvés, car l'ennemi voudrait amener même les fidèles dans la tentation s'il était possible. Alors, soudainement, l'épée du châtiment apparaîtra et elle abattra le corrupteur et ses serviteurs. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Et voyez-vous, ici je terminerai en disant oui, est-ce que nous vivons le temps de la rédemption ? Eh bien, il faut être aveugle, volontairement ou non, pour ne pas se rendre compte. Et comme disions tout à l'heure avec une sœur, on s'habitue à tout, même ce qui est invraisemblable, impossible et antibiblique. Et on finit de considérer l'anormal comme normal. et il nous faut revenir dans l'éclairage de la parole de Dieu. Il nous faut nous attacher à elle pour ne pas être emportés par cette boue qui va déferler. Et je crois que Israël aussi est pour nous le signe par excellence, qu'il nous faut revenir à cette parole, parce que non seulement ce qui se passe est une série de miracles, mais c'est aussi quelque chose qui est conforme à tout ce qui avait été écrit.